Chapitre 53. Devant moi, le lac Pavin ressemble à un immense miroir, entouré d'une ceinture de pins givrés dont les doubles grelottants se reflètent dans l'eau glacée. Les flocons tombent par milliers, les plus chanceux s'accrochent aux branches, s'entassent sur les berges, alors que tous les autres meurent dans le lac, désintégrés sitôt la surface de l'eau touchée, comme autant de kamikazes sacrifiés. Je ralentis, mais roule jusqu'au plus près du bord du lac, sur l'embarcadère de bois. Je sens les planches grincer sous les pneus. Je m'arrête enfin, mais même une fois serré le frein à main, Mamito continue d'avancer, sur plus d'un mètre, glissant inexorablement sur la neige tassée. Elle ne s'immobilise qu'au bout du ponton, à quelques mètres du vide. Je souffle une brève seconde. Je suis arrivée. Si la première partie du trajet de Froidefond au Pavin a été plutôt aisée sur les routes globalement dégagées, la seconde, après baisse, s'est révélée calamiteuse. La tempête annoncée s'est levée d'un coup. À la neige accumulée sur le bas-côté ou sur les branches des sapins, dispersée par le vent, s'est superposée l'épaisse couche qui recommençait à tomber, tendant un rideau blanc quasiment infranchissable à travers les phares. Une neige collante, à prise rapide, dont on pouvait presque voir, telle une crue, le niveau monter à l'œil nu. Plus je roulais, et plus j'avais l'impression de m'engouffrer dans un tunnel, qui s'ouvrait à peine et se refermait immédiatement derrière moi. Un tunnel silencieux. La neige tombait sans bruit sur la carrosserie, les pneus glissaient comme s'ils flottaient. Seule la radio maintenait une présence de vie, même si elle grésillait. Le journaliste local répétait ses conseils en boucle, exhortait les auditeurs à ne surtout pas sortir de chez eux. La tempête ne durerait que 4 ou 5 heures, mais serait particulièrement violente. Les météorologistes prévoyaient plus d'un mètre de neige dans la matinée. Le pays serait coupé. Restez chez vous surtout, ne vous déplacez que pour une raison vitale, essentielle. J'ouvre la portière de la mito et je sors sur l'embarcadère. Retrouver mon gosse, ce n'est pas une raison essentielle. Je dérape une première fois, je m'accroche à la portière. Merde! Sous la couche de neige, le sol est complètement glacé. Une véritable patinoire qui pourrait vite se transformer en plongeoire. Le lac s'étend juste devant moi. J'attrape mon bonnet mauve que j'enfonce sur ma tête, mon écharpe de laine blanche autour du cou. Je ferme jusqu'au dernier bouton ma veste de ski violette et je plisse les yeux en meurtrière pour éviter autant que je peux la salve de flocons. Rien, je ne vois rien à travers la lourde pluie de coton. Aucune voiture garée, aucune trace de pneus, de pas ou de traîneaux. Rien que le lac frigorifié et les pins blancs qui l'encerclent comme une armée de squelettes grimaçants. Je dois le trouver pourtant. Esteban est forcément ici, je ne peux pas me tromper. Est-il venu de son plein gré, cette nuit, profitant de l'éclaircie? L'a-t-on enlevé? Sait-il déjà? J'observe la surface lisse du lac sur laquelle des millions de flocons viennent mourir. S'est-il déjà noyé? Non, impossible. J'avance sur l'embarcadère à pas de chat, pour ne pas glisser. Je crie à en réveiller la galaxie.
Esteban !
Pas une ride du lac n'a tremblé. Sur ma gauche, le sentier qui longe le lac se repère difficilement, et les flèches des panneaux indiquent toutes le même balisage. Blanc, blanc, sur blanc.
Esteban !
Je m'engage dans le chemin. Je dois m'accrocher aux branches. Le sentier en dévers suit les berges du lac. Un pas de côté, un mauvais appui, et c'est le bain gelé. La surface du pavin est recouverte d'un fin brouillard de condensation. L'eau du lac ne doit pas être beaucoup plus chaude que l'air. Mais la brume offre l'illusion qu'elle est brûlante, bouillonnante. Une gigantesque marmite alimentée par les flammes de l'enfer. Comment imaginer qu'Esteban puisse y avoir plongé? Puisse avoir réellement cru rejoindre un village noyé en dessous? Quelqu'un l'a obligatoirement influencé.
Esteban !
Des flocons entrent dans ma gorge, d'avoir trop longtemps tenu la note. Je les crache, continue de marcher et crie l'autre prénom à regret.
Tom !
Je n'obtiens pas davantage de réponse, pas même un écho pour me narguer, pour faire croire qu'il existe une vie, que quelqu'un est venu ici.
Tom ! Esteban ! Tom !
J'avance, déterminée, sur le chemin de ronde. Mon bonnet est à tordre, mon écharpe, un serpent au sang froid qui me dévore la gorge. Je manque de déraper 100 fois. Chaque nouveau mètre me tend un nouveau piège, un puits de neige tendre où je m'enfonce jusqu'aux cuisses, suivi d'une portion plus dégagée où la neige chassée n'a laissé derrière elle qu'une plaque glacée. Je progresse pourtant. Ma mito n'est déjà plus qu'un petit igloo posé au bord de la banquise. Je suis presque sur la rive opposée. J'ai donc déjà contourné la moitié du lac. Déjà ? Depuis combien de temps suis-je là ? Un quart d'heure ? Une demi-heure ? Une heure ? J'arrache mon gant droit à pleines dents et je glisse ma main dans ma poche à la recherche de mon téléphone. 7 appels, 3 messages. C'est tout ce que j'ai le temps de lire avant que les flocons ne brouillent l'écran. Je les essuie d'un doigt rageur, puis courbe la main en dérisoire par avant. Savine, bien entendu. Savine a essayé de me joindre en continu. Ils se sont sûrement chargés d'appeler la police. Ils sont malins, sans aucun doute. Ils vont penser au pavin. Mes doigts patinent, mais l'écran tactile finit par m'obéir. Wayan a essayé lui aussi de me joindre. Aucun message audio, aucun texto. Ma main est gelée, mon visage grêlé. Je range le portable et renfile mon gant avant que mes doigts ne se cassent comme des bâtons de glace.
Esteban ! Tom ! Esteban !
Je reprends ma marche chaotique. Les branches de pin me frôlent. Au moindre contact déversent sur moi des tonnes de neige. Parfois, quand le sentier est trop étroit, me fouette. Je n'y prête plus attention, ni à la douleur, ni au froid. Mes yeux désormais s'aimantent à la surface du lac, seul élément du paysage à ne pas être dévoré par la neige. Un trou noir indifférent au cataclysme ambiant, une eau calme au reflet parfait, presque transparent. Mes yeux brouillés croient deviner des formes de toit, distinguer le son d'une cloche, entendre des rires d'enfants.
Esteban !
Est-ce que tout va recommencer ? Est-ce que l'eau va encore une fois se refermer sur son secret ? Tueuse silencieuse que rien jamais ne pourra faire avouer. Est-ce que plus jamais je ne reverrai Esteban ? Est-ce que la douleur va à nouveau me foudroyer ? Est-ce que dans 4 semaines on repêchera un corps noyé ? Est-ce que... J'ai pratiquement achevé le tour du lac. Ma mito est là, devant moi, à quelques centaines de mètres. L'embarcadère, quelques bancs, quelques plots pour amarrer l'été les canots et les pédalos. L'averse de neige devient plus dense encore, les flocons plus agressifs. J'ouvre grand les yeux pourtant, qu'ils me piquent, qu'ils m'irritent, je m'en fiche. Une petite barque est amarrée à l'un des pontons. Une barque que je n'avais pas vue quand je suis arrivée. Comment ai-je pu ne pas la remarquer ? N'est-ce qu'une illusion ? Esteban ! Ma gorge serrée dans son boa n'a laissé passer qu'un minuscule filet de voix. Je peine à croire ce que je vois. Il est là, dans la barque, devant moi. Je reconnais son blouson, son bonnet, ses cheveux blonds givrés.
Esteban !
J'ai crié cette fois, plein poumon, à en provoquer une avalanche. Esteban ne se retourne pas.
Tom !
Tom ne m'entend pas. Tant pis, je cours vers lui, au risque de glisser à chaque pas. Je me fiche de la neige, je me fiche du verglas. Non, tout ne va pas recommencer. Cette fois, je l'ai retrouvé. Cette fois, je peux le sauver.